Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne dans le cadre de nos émissions qui s'occupent de l'art et de la foi. Nous allons parler aujourd'hui du vitrail et du vitrail dans les édifices religieux. Nous avons à Chartres la grande chance d'avoir un atelier qui se met au service de la création depuis de très longues années. Et j'ai avec moi dans le studio Jacques Loire qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui avec nous et de partager ces moments sur le vitrail avec vous, chers auditeurs. Bienvenue dans notre studio, Jacques Loire. Les ateliers Loire sont très connus, pas seulement à Chartres et dans notre département, mais au-delà des frontières de la France. Les ateliers Loire sont connus dans le monde entier. Pourriez-vous peut-être retracer un peu l'histoire des ateliers fondés par votre père, Gabriel Loire?
Oui, bonjour. Je ne vais pas tout retracer parce que ça risque d'être un peu long, mais je voudrais quand même vous dire que c'est mon père Gabriel Loire qui est venu à Chartres pour et par le vitrail, parce que mon grand-père était angevin, donc il n'y avait pas de racine autre que le souhait de venir à Chartres à cause de la cathédrale. Il y a appris le métier de maître verrier et dès les années 30, il a créé des vitraux pour déjà de nombreux édifices.
Il a appris le métier dans un atelier à Chartres?
Oui, bien sûr, à l'atelier Lorrain, qui existe encore d'ailleurs.
Et qui est un atelier qui, au XIXe siècle, était parmi les plus importants en France.
Il a été un des grands ateliers importants. Il y avait Montméjean, il y avait Barillet, enfin, il y avait un certain nombre de grands ateliers, ce qui était un peu une caractéristique de cette époque, alors que maintenant, c'est plus éparpillé. Il y a plus, peut-être autant de verriers ou de maîtres verriers, mais plus dispersés et moins regroupés dans des gros ateliers comme à cette époque-là.
Et est-ce que ces ateliers se fondaient près des cathédrales, justement, au service des restaurations?
Absolument. C'est une des raisons, à mon avis, principales, c'est qu'il y avait à s'occuper de l'entretien courant des verrières des cathédrales, quand ça ne serait que pour aller nettoyer un panneau, refixer un panneau. Donc on peut dire que soit Strasbourg, Reims, Bourges, Chartres, Le Mans, Orléans aussi, mais surtout dans cette partie nord de la France, pratiquement au pied de chaque cathédrale, il y avait un atelier de maître verrier.
Car il y avait sans doute eu pas mal de destructions à cette époque-là, après la Révolution, il fallait réparer. Il y a eu ces guerres aussi abominables en 1870, où il fallait restaurer beaucoup de verrières qui avaient souffert, sinon complètement détruites.
Oui, bien sûr, il y a eu tous ces phénomènes qui sont très regrettables pour le patrimoine, mais il y avait tout simplement l'entretien, qui était de temps en temps d'aller revoir la fixation de tel panneau, de remettre en état telle fixation, et aussi, dans certains cas, c'est beaucoup moins vrai pour Chartres, puisqu'on a une unité extraordinaire de vitraux, dans certains cas, la création de vitraux de l'époque.
Mais on faisait à ce moment-là du pastiche. Est-ce vrai qu'on en limitait l'art du XIIIe siècle, la peinture, la manière dont on mettait en scène les figures?
Oui, on peut dire que l'art du vitrail que j'ai connu au travers de mon père, jusque dans les années, on va dire 60, enfin jusqu'à la guerre, est resté relativement très traditionnel, en repartant de schémas, de thèmes et même de factures relativement classiques.
Et on s'inspirait donc de ce qu'on voyait encore dans les verrières médiévales.
Absolument.
Comme nous allons parler. Pardon.
Il y a eu le fameux néo-gothique dont on parle, c'est-à-dire une transcription au 19e de ce que on pensait de l'art du 13e.
Alors, comme nous allons peut-être aborder, ou très sûrement aborder en dernière partie de notre émission, la création, parce que vous mettez votre atelier au service aussi de la création des artistes, mais vous êtes un atelier de création de vitraux. Est-ce qu'on pourrait peut-être, si vous voulez bien, décrire la technique traditionnelle du vitrail pour les personnes qui admirent les verrières sans vraiment savoir comment on les met en œuvre?
Alors, la technique traditionnelle du vitrail consiste à utiliser un verre de 3 ou 4 mm d'épaisseur, découpé avec des calibres en fonction du dessin qui a été créé.
Alors les calibres, ce sont ces patrons en carton qui oui. permettent aujourd'hui de découper le verre en mettant cette pièce sur le verre.
Le calibre sur le verre et d'en suivre le contour avec soit un diamant, soit une roulette.
Mais au Moyen-Âge, évidemment, le papier n'existant pas encore, on mettait le verre directement sur le dessin et on coupait le verre avec
un
fer.
Oui, c'est ça. On disait même que le dessin était fait sur des planches de bois, sur les tables, avec du charbon de bois. Et le verrier découpait le verre avec un fer rouge, c'est-à-dire par choc thermique, différence chaud et froid.
Et il fallait ensuite gruger pas mal de verre tout
autour. Pour affiner la pièce. Et les plombs qui existaient déjà à cette époque étaient non pas laminés comme maintenant, mais rabotés, c'est-à-dire des plombs beaucoup plus solides, beaucoup plus forts, ceinturés et entourés chaque morceau de verre comme maintenant.
Donc on peut...
avec une intervention très importante qui est la pose des, on appelle peinture, mais en fait ce sont des grisailles, des peintures vitrifiables qui étaient utilisées dès le Moyen-Âge, dès le 12e et même dès le 9e dans les traces que nous avons. Ce sont des grisailles qui étaient posées pour les éléments qu'on ne pouvait pas découper. Entre autres pour les yeux, le nez, la bouche, tous les détails que vous pouvez voir dans les verrières actuelles.
Une peinture vitrifiable qui doit être cuite sur le verre. Aujourd'hui, la cuisson se fait autour de 620 degrés.
Ça n'a pas beaucoup bougé, la cuisson, parce que la nature des verres n'a pas beaucoup bougé, mais c'est autour de 640, 650. Ça dépend un petit peu des effets qu'on veut obtenir.
Alors cette peinture s'appelle aujourd'hui grisaille, mais Théophile Semoine du XIIe siècle, qui nous décrit l'art, il parle de la peinture noire. Car effectivement, une fois cuite sur le verre, quand elle est posée, on ne voit que le trait noir qui donne...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la grisaille a été utilisée en fait pour remplacer le plomb. C'est-à-dire dans des endroits où le plomb aurait alourdi la vision, la lecture du vitrail, on a fait une grisaille opaque, noire. Mais si vous délayez cette grisaille, ce qui s'est fait au cours des siècles, vous obtenez des jus, des lavés qui permettent d'avoir des semi-transparences.
Alors, un vitrail se compose donc au Moyen-Âge, jusqu'à une époque très avancée, jusqu'à la Renaissance, du verre coloré dans la masse, au moment même où on le produit, de la peinture qu'il faut cuire et des plombs. C'est ce qu'on appelle la technique traditionnelle du vitrail.
Oui, mais elle a duré plus longtemps que ça. Elle a duré pratiquement jusqu'à 1940, jusqu'à la guerre, c'est la dernière guerre. Et il y a une étude que ma fille a faite sur les premiers vitraux en dalles de verre qui datent, c'est une autre technique dont je peux vous parler, qui date des années 35-36, beaucoup plus au stade muséal, que de grandes réalisations.
Nous avons donc épuisé, peut-être pas tout à fait quand même, le sujet du vitrail traditionnel et nous avons parlé de la création des ateliers Loire à Lèves, près de Chartres. Après une petite pause musicale, nous allons poursuivre notre entretien sur la création des ateliers Loire.
Ça,
Nous sommes à Radio Grand Ciel avec Jacques Loire, qui est le fils du fondateur des ateliers Loire à Lèves, près de Chartres. Atelier connu dans le monde entier pour ses créations au service des édifices religieux. En cette deuxième partie de notre émission, nous voulions interroger notre invité de ce jour sur la création des ateliers Loire dans des édifices dans le monde entier. Quelle est la technique mise en œuvre par les ateliers Lèves quand elles sont dirigées par votre père, Gabriel Loire?
Oui, on peut dire que mon père a eu une chance, si je puis dire, de pouvoir faire beaucoup de créations juste après-guerre, à un moment où il y avait grand besoin de vitraux, tant en restauration d'églises qui avaient été démolies, tant en création d'églises neuves. Et il a pu développer la technique de la dalle de verre, c'est un verre qui fait 3 cm d'épaisseur enchâssé dans un mortier de béton, pour de nombreux édifices. Un des plus célèbres, des ceux auxquels on s'est beaucoup attaché, c'est la... Je n'ose pas prononcer le nom en allemand parce que je vais me...
La Gedächtniskirche, je vous le fais à votre place.
Merci beaucoup. L'église du souvenir de Berlin, qui a été un projet passionnant parce que le problème posé était difficile. Il y avait 2 paroisses superposées qui donnaient une lumière, donc il a fallu faire beaucoup d'études. Mais... nous en gardons un grand panneau à Chartres dans notre atelier que l'on montre avec plaisir, en soulignant que l'on a réalisé là à Berlin pratiquement la surface des vitraux de la cathédrale de Chartres.
Donc presque.
Près de 2500 mètres carrés de vitraux.
C'est peut-être l'occasion de rappeler aux auditeurs qu'on peut visiter votre atelier sur rendez-vous.
Alors sur rendez-vous pour des groupes et tous les vendredis après-midi à 2h30 précises pour les personnes isolées.
Donc ce chantier a laissé des traces dans votre atelier puisque vous avez gardé une salle où vous exposez ce panneau.
Je peux dire aux visiteurs, on va à Berlin 5 minutes, on fait vite le saut dans cet atelier que mon père avait créé spécialement pour présenter toutes ses créations, tout le résultat de ses créations.
Alors ce travail de création pour Berlin a mis en œuvre la dalle de verre. Comme vous l'avez rappelé, oui. C'est un verre qui est coulé dans un cadre pour donner des blocs, des dalles de 2 à 3 cm.
20 cm de long par 30 de large et 2 cm à peu près d'épaisseur.
Et qui sont très, très lourdes, du coup.
C'est beaucoup plus lourd, puisque je vous parlais pour la technique traditionnelle, c'est 3 mm. Là, on est pratiquement 7 fois plus lourd.
Donc, une dalle ainsi coulée, elle a quel poids?
3,5 kg.
Alors, ces dalles sont débitées.
Elles sont taillées avec un petit marteau qu'on appelle une marteline sur un billot, de façon à correspondre avec un calibre, comme la technique.
Un patron qui permet de donner la forme voulue.
Qui permet au tailleur de verre de suivre les contours de ce qu'il veut faire.
Et ensuite, les dalles étaient également facettées? Donc on enlevait quelques débris.
Alors elles peuvent être éclatées, facettées, comme vous dites, c'est-à-dire, comme le verre est coloré dans l'épaisseur, si vous diminuez l'épaisseur, vous diminuez l'intensité lumineuse. Donc ces facettes ont 2 raisons, c'est que ça donne une brillance, un petit peu comme un diamant, et puis aussi ça fait des nuançages de verre, de couleur.
Et un dégradé, on a donc
un dégradé.
Dans une dalle qui a une couleur rouge, on obtient ainsi un dégradé, passant du rouge foncé.
C'est ça, on peut passer de l'orange, dans certains cas, au rouge.
Donc c'est assez intéressant de mettre en pratique ces techniques.
Vous avez différents artistes qui ont utilisé les dalles de verre après-guerre, dont Fernand Léger et Bazaine aussi, et Manessier. Mais ça a été... eux souhaitaient ne pas éclater les dalles de verre, alors que mon père a toujours souhaité donner plus d'éclat, plus de brillance.
Et votre père a excellé dans une technique de dalles de verre qui est exceptionnelle, puisqu'il a fait du figuratif sans peinture.
Oui. Alors, si vous voulez, au tout début, mon père, avec la tradition qu'il avait du vitrail, dès qu'il s'agissait de pièces difficiles, on peignait avec des grisailles sur les dalles de verre. Et très vite, il a réussi à trouver une technique pour découper, remplacer cette grisaille par le béton et ne faire finalement qu'une mosaïque de verre de couleur dans les vitraux.
Mais qui devenait du coup figuratif par la distribution des couleurs.
Oui, bien sûr, ça pouvait être... C'était figuratif déjà au départ, mais là, c'est la possibilité, avec les éclats de verre, de rendre, par exemple, pour un visage, l'éclat sur le front, sur la joue. Et ça a été grâce aux techniques de nos personnes qui travaillaient avec nous, de faire des coupes extrêmement fines, extrêmement détaillées, pour réaliser les dessins de mon père.
Alors, est-ce que cette technique s'utilise encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des demandes ou...
Alors, c'est une technique qui a été extrêmement développée jusque dans les années 90 à peu près, puisque mon père a fait des vitraux à Casablanca, au Japon, beaucoup aux États-Unis, au Chili, où je vais malheureusement, où je vais aller parce qu'il y a eu un tremblement de terre et il y aurait des vitraux qu'il a réalisés là-bas qui seraient à restaurer. Et actuellement, il y a très nettement une diminution, très nette, plus que nette d'ailleurs, de cette technique qui a eu un peu une raison d'être à l'époque où ça a été utilisé, c'est qu'on était encore dans l'esprit des vitraux d'église qui clôturaient l'édifice, qui renfermaient un petit peu à l'image des cathédrales gothiques où tout est fait pour être à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et au même titre que l'architecture qui s'ouvre vers l'extérieur, on a vu des maisons-jardins, enfin, là c'est... Je pense que c'est un peu le même esprit qui préside et qui fait qu'on utilise beaucoup plus la transparence en utilisant d'autres techniques que, comme le verre thermoformé, comme le verre fusionné, comme le verre...
Ce sont des techniques sur lesquelles je vais vous interroger. Donc après cette importante période de la création en dalle de verre, c'est vous qui avez repris les ateliers et vous avez utilisé à ce moment-là quelles techniques pour intervenir dans les édifices ? N'hésitez pas à nous citer des chantiers que vous avez réalisés.
Oui, merci. Donc, quand mon père a souhaité se consacrer beaucoup plus à la peinture propre, puisqu'il a fait de nombreuses expositions de peinture, j'ai repris l'atelier avec ma femme. Et là, a continué un petit peu toutes sortes de techniques, aussi bien la technique classique, que j'aime beaucoup quand même, parce qu'on peut traduire des expressions contemporaines avec la technique de verre antique et plomb. J'ai continué à réaliser des vitraux en dalle de verre. Et puis, grâce à mes fils qui sont venus m'épauler à l'atelier, avec qui je continue à travailler, enfin qui ont la gentillesse de me supporter encore, il y a des techniques actuelles, grâce au four que nous avons à notre disposition, qui permettent d'intervenir sur des grandes plaques de verre sans trop de risque de casse, enfin d'abîmer les molécules du verre.
Oui, parce que plus un verre est grand, plus il devient difficile de le chauffer correctement,
surtout
de le refroidir.
Plus vous le chauffez, plus vous intervenez dans la structure moléculaire du verre et plus vous avez de risque de casse. Donc il faut être très prudent, aussi bien en montée en température quand vous voulez soit le déformer, soit l'émailler, qu'en descente, qu'en réchauffe. C'est-à-dire il faut quelquefois plusieurs jours pour le recuire.
Alors en tant que créateur de vitraux, comment est-ce que cela se passe quand un chantier s'ouvre ? Pourriez-vous nous tracer un peu l'itinéraire de la création ?
C'est ce que j'ai coutume de dire, c'est une grande aventure. Une aventure qui commence par des contacts qui sont souvent très passionnants et très enrichissants. Contacts soit avec le curé responsable, soit avec, le plus souvent maintenant, avec des comités qui viennent et qui nous indiquent des thèmes ou soit une certaine iconographie qu'ils souhaiteraient voir représentée dans les vitraux. Très souvent, ils viennent à l'atelier, donc on peut leur montrer déjà différents travaux réalisés pour voir un petit peu comment s'orienter. Ensuite, il y a obligatoirement des visites sur place pour prendre connaissance du bâtiment, puisque on fait partie de l'architecture, on fait partie du gros œuvre. Donc il faut, à mon avis, respecter le bâtiment et tenir compte du public qui va y venir. Si vous voulez, j'essaie de ne pas créer les mêmes... Je ne crée pas de la même façon pour une petite église de campagne que pour une grande cathédrale, quand ça... J'ai la chance d'en faire, ou qu'un couvent, et je voudrais citer le Carmel de Champfol qui est tout près de chez nous, où j'ai eu la chance et la joie de pouvoir réaliser quelque chose où il n'y a pas de couleur, puisque je voulais continuer à ce calme et cette sérénité qu'ont les sœurs dans cette chapelle.
Vous allez nous en parler après une petite pause musicale ? Jacques Loire, maître verrier et père des actuels chefs d'atelier Loire à Lèves. Jacques Loire, notre invité de ce jour, nous a parlé de sa création ici à Chartres, près de Chartres, à Champfolles, dans le Carmel, d'un vitrail sans couleur. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous parler un peu de cette création.
Oui, je vous ai parlé d'aventure et c'est vrai que là, ça a été une aventure parce que avec l'architecte que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est très important hein, quand on a la chance et le plaisir d'avoir l'architecte présent, il y a des discussions qui s'installent, c'est un peu une espèce de partenariat qui se fait. Et les sœurs carmélites qui étaient à Chartres avant se sont déplacées vers Champfolles dans un bâtiment extrêmement contemporain par rapport à ce qu'elles avaient. Elles avaient une chapelle néogothique. Et quand on m'a parlé de vitraux, après beaucoup de réflexions, parce que là aussi, c'est une question qu'on pose souvent, combien de temps faut-il pour faire un vitrail ? Et je réponds, mais il y a toute la période de réflexion avant la création qui est très importante, enfin que je trouve très importante. Donc là, après beaucoup de discussions, de réflexions, j'ai souhaité, comme ils étaient installés dans la nature, avec une vision sur la cathédrale, leur conserver cette vision de la nature et de la cathédrale, de façon à ce qu'elles soient, puisqu'elles sont déjà dans un cloître, qu'elles soient dans un cloître, mais pas enfermées dans leur chapelle. Et avec l'accord de l'architecte, j'ai utilisé un grand graphisme de plomb, comme j'aime les faire, relativement symbolique, avec bien sûr la grande croix du Christ en centre, nos mouvements qui vont de la terre jusqu'au ciel, et en utilisant une seule nuance de glace, à l'époque j'ai fait ça avec une glace topaze, si bien que quand on rentre, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de couleur, qu'on est dehors, mais on est à l'intérieur quand même grâce au graphisme. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec la supérieure du Carmel et ses adjointes. Et je dois dire que ça a été aussi très étonnant parce que la première fois, elle m'a dit « Mais vous avez oublié de le mettre en couleur. » Je dis « Non, c'est comme ça que j'aimerais le faire. » Et il faut dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'art du vitrail, c'est relativement difficile pour eux de comprendre et d'admettre la pensée d'un créateur qui quelquefois a d'autres types de vision.
C'est vrai que quand on dit vitrail, on pense tout de suite à couleur,
voilà.
L'air de couleur,
absolument.
Peinture,
figuratif. Il y a une connotation au mot vitrail qui nous dessert quelquefois parce que dès qu'on parle vitrail, on pense cathédrale. Or, il y a bien des petites églises dans lesquelles on peut faire des choses passionnantes.
Avec cette technique. Alors parlons justement d'une petite église pas loin de Chartres que les auditeurs pourraient aller visiter, une église à Lèves.
À l'église de Lèves qui a été détruite à la Libération, détruite en partie à la Libération, que l'architecte a reconstruit sur les mêmes bases.
Rétréau, un enfant de Chartres également.
Oui. Et l'architecte de Champfolles, c'était Rétréau aussi. Comme on prévoyait que, et c'est vrai que la petite ville de Lèves, ça allait s'agrandir, on avait demandé à l'architecte d'agrandir l'église, donc il a pensé à une nef sur le bas-côté, et tout naturellement à cette époque, il s'est dit on va faire un mur, et au lieu de faire un mur plein, on va faire un mur lumineux. Et mon père a été chargé de faire un grand mur avec ses dalles de verre, et c'est toujours un grand plaisir de retourner dans cette église où quelques années avant sa mort, il a réalisé dans le baptistère une peinture murale avec son petit-fils, ce qui était passionnant pour lui et pour Bruno. Et puis je dois signaler aussi les très belles sculptures de Lamberucci qui sont à l'extérieur et qui viennent d'être restaurées d'ailleurs et qui sont également une raison de plus d'aller à l'église de Lèves.
Et puisque nous sommes dans cette période des années 60, citons aussi l'église Saint-Jean-Baptiste à Rechèvre, oui. Où l'atelier Loire est intervenu pour aussi une dalle lumineuse et une mosaïque sur dessin de votre père Gabriel Loire,
voilà.
Pour orner la tombe de Franz Stock qui se trouve depuis les années 60, début des années 60, dans cette église à Rechèvre, faite également avec l'architecte Rédréau.
Oui.
Et on a des vitraux de Maxime Grand, un grand personnage en même temps avec votre atelier de création. Alors, vous parliez de petit-fils de votre père, Gabriel Loire. Vous avez donc deux fils, Bruno et Hervé Loire, qui ont repris les ateliers. Et vous continuez ce travail de création, mais les ateliers Loire à l'EF se sont mis aussi à disposition des artistes. Oui. Comment cela se passe, effectivement, cette coopération entre un atelier qui lui-même crée des vitraux et qui se met au service d'un artiste qui va, lui, ne pas forcément connaître toutes les arcanes du vitrail.
Ça arrive très souvent. Oui, alors, très rapidement, mon fils Hervé, qui est le deuxième, très tôt a souhaité travailler dans cet art et créer des vitraux. Il a suivi des études à Paris, alors que Bruno avait souhaité faire autre chose jusqu'au moment où il a souhaité revenir à l'atelier. Il est revenu à l'atelier avec une idée, c'était d'ouvrir les portes de l'atelier à des artistes qui, quelquefois, n'avaient aucune connaissance, ni même d'envie de faire du vitrail, mais en leur disant, écoutez, votre dessin me plaît, votre graphisme me plaît, pourquoi on n'en ferait pas un vitrail? C'est ainsi qu'il a pu travailler avec un grand nombre d'artistes, Valerio Adami, Fromanger, Alberola et beaucoup d'autres.
Qui sont de très grands artistes dans le monde
de la
création.
Ce sont des noms de personnes qui ont poursuivi dans le vitrail après. Pas toujours avec notre atelier, mais ça, c'est pas important.
Mais citons plutôt un artiste qui est toujours avec vous, le père Kim Nguyen, père dominicain.
Dominicain, qui est un artiste passionnant parce que ça a été très compliqué. Ça fait 10 ans qu'il vient régulièrement à l'atelier parce qu'il a de nombreuses commandes et de nombreux projets.
Alors, il a fait les vitraux avec vous pour Évry, pour la cathédrale d'Évry.
Oui.
À Fontfroide, il a fait des vitraux.
Et puis à Brioude,
c'est grand. Très grand.
En Bretagne. Et si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, vous avez soulevé le problème de nous créateurs par rapport à d'autres artistes créateurs, c'est très enrichissant d'avoir à se pencher sur d'autres problèmes que les siens propres. Ça nous fait sortir. Parce que, étant donné que nous sommes à l'atelier, Hervé et moi, et Bruno aussi, dès qu'on a une idée, on est tout de suite un petit peu limité par se dire comment on va le réaliser. Alors qu'un artiste arrive avec une maquette qui est pas toujours adapté à l'art des vitrails, et qui nous dit, voilà, il faut le faire. Et là, j'ai le cas actuellement avec un artiste qui nous apporte quelque chose, et on se demande vraiment de quelle façon on va pouvoir traduire au mieux son expression. Et c'est passionnant.
Malheureusement, nous avons épuisé les 30 minutes qui nous étaient imparties, mais si vous, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, voulez voir les résultats de cette réflexion des Ateliers Loire avec un artiste, en l'occurrence le père Kim Nguyen, allez au Centre International du Vitrail, dont Monsieur Loire est d'ailleurs un co-fondateur et un membre de très très longue date, et vous pouvez donc voir les peintures du père Kim sur des glaces du verre flotté réalisées dans les Ateliers Loire à Chartres, créations qui sont allées dans le monde entier, et il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement Jacques Loire d'avoir partagé ces 30 minutes avec nous, avec vous, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, à qui je souhaite une très bonne journée. Au revoir et
merci.
À bientôt.
Merci.